Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce café littéraire ou table ronde. Je ne sais jamais très bien faire la différence. C'est une table ronde, celle-ci. Il n'y a pas de bière, donc ce n'est pas un café littéraire. Donc, c'est une table ronde. Paf. Alors, le titre de cette table ronde, c'est « Quand le héros a les crocs, vampires et loups-garous ». Alors, on va commencer par le titre en lui-même. Je ne vais pas vous présenter les auteurs in extenso, un par un. Je pense qu'on a plein de choses à se dire plutôt que de parler de leur biographie dans le détail. Enfin, sauf si vous souhaitez à la fin poser des questions sur qu'est-ce qu'ils ont fait avant d'écrire, qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire après, tout ça. Mais pour l'instant, on va surtout parler du titre de cette table ronde. Est-ce que vos personnages ont les crocs ? Est-ce qu'ils ont faim ? Est-ce que c'est cela le moteur de tout vampire ou de tout monstre qui se respecte ? Est-ce que c'est la faim qui mène vos personnages ? Qui est-ce qui a envie de commencer ? Oh, dame.
Alors, il y a un passage, un moment, un truc que j'ai écrit, où Navarre dit, mon vampire, qu'il a toujours vu dans heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés dans la Bible, enfin dans le Nouveau Testament. Il trouvait que c'était une menace horrible. Donc, je crois qu'il a faim et qu'il aime bien ça. Voilà.
Jean-Luc, est-ce que Louis... Oui, je vais pas vous louper.
Pas comme ça.
Est-ce que Louis est un personnage qui a faim ? Et s'il a faim, il a faim de quoi ?
Il a faim d'amour. Non, il a faim, oui, il s'éveille à la faim. Enfin, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui s'éveille en lui.
Est-ce qu'on peut parler de qui est Louis, pour ceux
Louis,
qui ne
donc,
connaissent
Louis
pas.
Est cette histoire-là, donc, qui s'appelle Louis le Galou. Et donc, mon personnage est un jeune homme qui, au Moyen-Âge, se découvre, le grand pouvoir ou la malédiction, selon le point de vue où on se place, d'être Galou, donc loup-garou. Donc c'est un peu un archétype pour moi de l'adolescence, hein, c'est-à-dire ce moment où le corps va se transformer, où on n'en est plus maître, on sent une énergie qui nous pousse, qui pousse à l'intérieur, une faim justement, hein, il y en a un appétit, hein, pour tout, pour les choses de la vie, on va dire, pour la vie en règle générale, et qu'on va devoir apprendre à canaliser pour éviter qu'il n'explose en violence ou autre chose. Et donc oui, je pense que mon héros a faim de vie déjà, tout simplement. Après, va se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il va faire de cette fin. Voilà. Moi, dans mon histoire, si le héros franchit une certaine limite, si ce galou franchit une certaine limite, s'il goûte la chair humaine, il va franchir une certaine limite vers l'animalité. Donc voilà, tout le problème de mon héros se situe là. Qu'est-ce qu'il va choisir ?
Pour vous, Enem Zimmerman, est-ce que Alice Crane fait partie de ceux qui ont faim ou de ceux qui sont mangés ?
C'est vrai que le vampire est lié à la faim, pas forcément de sang d'ailleurs. Les appétits
on va
du vampire
parler,
voilà,
on
ont évolué au cours du temps. Moi, en l'occurrence, dans Alice Crane, Alice Crane n'est pas un vampire. Alice Crane est un médecin légiste qui, malheureusement, elle a un cadavre sur sa table et puis elle va déjeuner, elle revient, le cadavre n'est plus là. Donc elle est très embêtée et puis tout le monde lui en veut beaucoup. Et puis elle marche dans la rue et puis elle voit son cadavre. Donc elle le suit parce que c'est embêtant. Tu ne peux pas le remettre sur la table en même temps. T'es un peu, voilà. Donc c'est effectivement un vampire. Et la question de la faim est centrale chez moi comme chez beaucoup d'auteurs, sachant que le vampire... Peut-il boire du sang animal ou peut-il boire du sang humain ? S'il boit du sang humain, dans quelles conditions ? Est-ce que si ce sont des volontaires, ça rend la chose acceptable ? Dans quelle mesure les gens sont-ils consentants ? Et à quelles conditions ? On voit ça très souvent dans les films, c'est le vampire qui ouvre son frigo et dans lequel il y a les poches de sang qu'il a piquées auprès des collectes. C'est toujours une possibilité. Bon, en l'occurrence, mon roman se passe dans l'univers dans lequel il y a une organisation qui s'appelle l'ORF, l'organisation de pacification pour les relations entre l'humain et le surnaturel, qui sont censément en contrôle. Donc les vampires ont signé un traité, normalement, ils n'ont plus le droit de boire du sang humain, en théorie. Voilà.
Et de la théorie à la pratique, on sait tous qu'il y a de longs pas. HV, pour vous, est-ce qu'on voit se dessiner une ligne qui différencie énormément les loups-garous et les vampires ? Est-ce que vous, vos loups-garous ont la faim au corps ou est-ce que c'est autre chose
non.
qui les motive ?
Mes loups-garous comme mes vampires d'ailleurs sont comme moi, c'est-à-dire qu'ils n'ont faim qu'à l'heure des repas.
Et donc, bien élevés.
Voilà, bien élevés, politiquement corrects la plupart du temps, parfois ça dérape un petit peu. Et ce qui les motive, c'est plus, je dirais, à ce moment-là, la fin de vérité et de paix, ce qu'ils ont beaucoup de mal à trouver dans les enquêtes et les intrigues qui se déroulent au fil des tomes.
Et alors, quand on continue poursuit sur cette question de fin, si c'est pas la fin qui motive vos personnages, est-ce que le moteur de leur action, ça peut être plutôt la férocité, puisqu'on est dans des personnages qui sont sur la monstruosité, sur l'altérité, la différence. Jeanne, est-ce que vos personnages sont des personnages féroces?
Bah, pas tellement plus que n'importe qui dans cette salle.
Tout le monde se reconnaîtra.
Voilà, le monstre est dans chacun de nous. Et les vampires, parfois, poussent la limite un peu plus loin. Dans mon univers, c'est clair qu'ils ne valent ni plus ni moins que nous. Le truc, c'est qu'ils ont les pouvoirs d'aller plus loin et de faire mieux. Encore que l'être humain a les moyens industriels de dépasser un vampire largement, hein, au niveau individuel. Un vampire, il est tout seul. Hein. Mais lorsqu'on s'y met...
C'est que Jeanne est en avance sur mes questions.
Pardon, tu veux que je m'arrête?
Non, tout va bien.
Parce que lorsqu'on a la Shoah, le génocide amérindien... quand même,
l'esclavage.
L'esclavage. Non, mais t'inquiète pas, j'y arrivais. J'allais donner d'abord des chiffres. Il faut quand même savoir que lorsque les Blancs sont arrivés en Amérique du Nord, il y avait 21 millions d'Indiens. Actuellement, enfin, appelés Indiens. Actuellement, les natifs, il en reste 1 million. C'est le génocide le plus discret et le plus efficace de l'histoire. Alors, ça commence à se savoir, mais ça ne gêne personne apparemment, et surtout pas les Américains. J'ai vu passer un truc sur Internet qui me fait beaucoup rire, c'est Donald Trump qui invite, qui dit que les gens qui ne sont pas d'origine d'Amérique doivent immédiatement partir. Et là, tu as un chef indien qui le regarde et qui dit « Ah ouais, ça serait bien ». Voilà. Donc, alors, derrière, il y a l'esclavage, et puis on peut en trouver plein, et comme ça. À côté de ça, un petit vampire tout seul, avec son cénacle de 2 ou 3, même 15, si on veut, il n'y arrive pas, hein, il n'a pas les moyens.
Le vampire est un humain mal organisé, c'est
ouais,
ça.
Ouais, c'est ça. Et puis surtout, il est trop vieux, il n'a pas appris la révolution industrielle. Voilà, il est moins efficace, en fait. Mais fondamentalement, je voulais revenir sur l'histoire de la fin, et en fait, c'est toute la question du désir de vivre. Et alors, à quel prix on va poser son désir de vivre? Jusqu'à quel point ce désir de vivre peut ou doit empiéter sur celui des autres? Et au fond, c'est la question que nous nous posons tous lorsque nous nous mettons en couple et que nous définissons, par exemple, le territoire avec notre conjoint. Qu'est-ce que tu as le droit de faire? Jusqu'à quel point tu as le droit de m'emmerder, par exemple?
Hein, parce qu'on part du principe que le conjoint emmerde. Hein.
Bah, forcément, parce qu'il va avoir des désirs qui ne sont pas forcément les nôtres. C'est un autre. Tu vois, et avec tout l'amour qu'on lui porte, on n'est pas toujours dans le sacrifice, sinon on crève. Tout simplement. Donc, c'est quelle limite on va donner aux autres et à soi-même dans le pouvoir d'emmerder. Voilà. Moi, je les pousse un peu loin.
HV, chez vous, les héros, les personnages, les Lude Riverdon sont quand même des personnages qui sont au départ principalement solitaires. Et peut-être qu'au contraire, la recherche de la meute, la recherche de la présence de l'autre est plus un moteur que le fait de se retrouver tout seul et de repousser l'autre pour qu'il arrête de vous emmerder comme chez Jeanne.
Oui. Tout à fait. Mes créatures ne sont pas franchement féroces, même si elles savent donner des coups de croc ou des coups de griffe quand il le faut pour se défendre essentiellement. Mes personnages sont à la recherche de l'amour. De l'amour, de la famille, d'un foyer, de racines pour s'implanter quelque part, pour fonder quelque chose. Et c'est un élément qu'on retrouve comme moteur, en fait, de chacun des personnages quasiment et de chacun des couples que l'on voit dans le tome 1, dans le tome 2 et dans le tome 3 qui est en cours d'écriture également.
J'ai une petite question très précise sur vos personnages. Lucas, Léo, Logan.
C'était un hasard.
C'est un hasard.
Le prochain okay. ne sera pas un L.
D'accord. Le premier, c'est Lucas et Marcus. Mm-hmm. Lesta et... Non, ça ne vous a pas parlé? Ça vous a pas servi d'inspiration ? Non. Bon, voilà, c'était ma vision à moi. Mais
non, j'adore Lesta et j'ai eu un coup de foudre pour les bouquins d'Anne Rice, mais effectivement,
il a un Marius dans sa vie, non ? Il y a un de ses mentors qui s'appelle
Mais il en a beaucoup.
Le Romain, celui qui garde le temple.
Il en a beaucoup dans sa vie en même temps, Lesta, donc c'est pas franchement un exemple à suivre pour
Lesta
pour
n'est
les
pas
miens qui sont relativement monogames.
D'accord.
Au final.
Bien, alors on a vu faim ou férocité. Passons au régime alimentaire. Est-ce que on peut envisager à un moment, vous avez un petit peu évoqué ça, est-ce qu'on peut envisager des VV, des vegan vampires ? Oui.
D'un point de vue physiologique, non.
D'accord.
Sinon, tu n'es pas un vampire. Si tu bois pas de sang, tu n'es pas un vampire pour moi. C'est pour ça que pour moi, les trucs comme Twilight et tout ça, ce ne sont pas des vampires.
Mais ça,
si
c'est
vous
parce
ne tuez
que...
pas de gens, si vous ne buvez pas de sang, vous n'êtes pas un vampire, c'est tout. Vous pouvez être autre chose, une créature qui brille. Non, mais c'est vrai.
Je rappelle que nous faisons partie... Pour ceux qui ne sauraient pas, nous faisons partie de l'équipe de Morgan Cossario qui dit « Real vampires do not shine », c'est ça hein,
oui.
Les vrais vampires ne scintillent pas.
Mais absolument, je m'inscris.
Bon, s'il y a des failles de Twilight, vous avez le droit d'aimer, il n'y a pas de souci. Mais vous aimez un personnage, vous n'aimez pas des vampires, c'est ça ? Dans votre vision à vous, le vampire ne peut pas être...
Mais ça n'a rien à voir, vous mangez bien de la viande, c'est pas pour ça que vous êtes méchant. Non, ce sont deux problèmes séparés. Moi, dans ma vision, les vampires, il n'y a pas seulement des vampires chez moi, il y a un certain nombre de créatures surnaturelles, sont en fait plutôt dans l'optique d'une minorité, qui ont des besoins alimentaires différents, qui s'accommodent en fait des humains qui font effectivement un coup de traité, de répression et qui se sentent aussi extrêmement opprimés. C'est plus d'un point de vue, évidemment c'est d'un point de vue personnage à personnage et tout ça, mais il y a une dimension plus politique de comment vivre avec ces communautés qui sont là, sachant qu'elles étaient là, elles sont là depuis quasiment aussi longtemps que nous, mais que y a possibilité qu'elles nous mangent. Donc voilà, chez moi il y a des quotas, on peut pas créer tant de vampires parce que c'est pareil. Un vampire tout seul, oui, mais si à chaque fois qu'il mord quelqu'un, ça devient un vampire ou qu'il peut transformer n'importe qui en vampire, on peut être embêté.
On en a vite une épidémie, quoi.
Voilà. Ouais.
Ça s'appelle Je suis une légende de Richard Matheson.
Et d'ailleurs, ça se finit pas très bien.
Non. Ça dépend pour qui.
C'est pareil, une fois qu'il n'y a plus d'humain, comment tu manges ? Tu es embêté aussi.
Je ne sais pas, je ne veux pas savoir.
Ah ben, il sort tout seul avec son fusil, ils ont tous peur.
Alors, est-ce que pour rebondir sur ce que disait Jeanne tout à l'heure, est-ce qu'en étant un prédateur, et là, peu importe que ce soit vampire ou loup-garou, est-ce qu'en étant un prédateur, le monstre ou l'autre n'est pas un peu condamné au jugement de l'humanité ? C'est-à-dire que l'humanité, elle est bien contente de trouver quelqu'un qui, soi-disant, est pire qu'elle, qui se comporte d'une façon plus monstrueuse qu'elle. Est-ce que pour vous, l'humain n'est pas un peu le vampire ou le monstre de notre planète, le vrai monstre ou le vrai vampire de notre planète ?
Moi, je trouve que c'est quelque chose qui, dans la littérature actuelle, il y a un renversement de malheur. L'humain devient vraiment le prédateur de la planète, le méchant qui va détruire la planète. On est en train de changer le monde, on va détruire le monde. Je trouve qu'en ce moment, c'est quelque chose qui est vraiment très, très à la mode. L'être humain est foncièrement méchant. Enfin, je pense pas, j'ai pas l'impression qu'on soit tous foncièrement méchants. Je pense que l'être humain vit. Est-ce qu'on doit tuer la moitié de l'humanité pour sauver la planète ? Je sais pas. Enfin, il y a des idées qui font un peu peur en ce moment vis-à-vis de ça. C'est cette idée de prédation, voilà, de détruire tout le temps, comme si l'humanité était un virus quelque part.
Mais comme si l'humanité avait justement cette question de faim et de faim insatiable et inextinguible. Il y a un côté prédateur ultime, non ?
Il y a un côté, bah oui, de toute façon, quelque part, on est devenu le prédateur ultime dans la chaîne alimentaire sur la planète. Ça, c'est une évidence. On a plus de prédateurs. Si on tombe d'un bateau dans l'océan et qu'il y a des requins autour, peut-être que là on considère la question sous un autre angle.
Ne pas prendre le bateau au point.
Voilà, c'est ça.
Et est-ce que vous, vos personnages sont des prédateurs ?
Non, pas tellement. Ils ne sont pas des prédateurs. Ils vivent cachés des humains dont ils se méfient à cause de leur pouvoir destructeur. Puisqu'on sait très bien comment réagissent les humains face à la peur de l'autre, face à l'étranger. Donc. Mes loups, mes vampires et mes autres créatures surnaturelles se fréquentent plus ou moins entre elles, sans toujours s'apprécier, mais en tout cas se cachent des humains.
Il n'y a pas de traité envisagé.
Alors, il n'y a pas de traité envisagé. Il y a une petite secte qui avait envisagé un coming out général et qui s'est fait exterminer très rapidement. Voilà.
Comme donc ça, c'est réglé.
Pour le moment, tout le monde vit caché. Ça ne veut pas dire qu'ils vivent forcément heureux, mais en tout cas, protéger des humains.
Je continue sur ma oui, Jeanne, bien sûr.
Excuse-moi. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Jean-Luc. Pour moi, c'est pas que l'être humain soit méchant. L'être humain, il n'est pas fondamentalement méchant ni gentil. Hein. Il est fondamentalement en troupeau. À l'intérieur de ce troupeau, il y a des gens nuisibles, fondamentalement, puis des gens absolument sublimes. Le problème, c'est que la plupart du temps, les gens nuisibles sont plutôt au-dessus du panier et qu'ils traitent leurs congénères effectivement comme une autre des ressources épuisables de la planète, hein, pareillement, avec la même, avec le même cynisme et le même manque de sens du temps. C'est-à-dire que si on continue effectivement comme ça, on va tous dans le gouffre. Et ça sera à la fois attribuable d'une part à la monstruosité, que j'appelle pas méchant, je vis pas dans Bambi, méchant et gentil, c'est juste de la vision à court terme, quelque part. Hein, c'est après moi le déluge, c'est juste con, en fait. Et là, comment dire, il faut pas attribuer à la méchanceté ce qui est massivement attribuable à la bêtise. Voilà.
Il n'y a pas d'intention derrière les misances.
C'est même ça le problème, c'est que s'il y avait une intention, ça serait moins con. On irait plus loin. On sera en train de s'apercevoir que la planète nous file sous les pieds. Les vrais monstres sont ceux qui savent où ils vont et où on va et qui s'en foutent. Le problème, c'est qu'on en rencontre rarement qui ont la lucidité de se regarder dans la glace jusque-là.
C'est des vampires, ils se voient pas.
Exactement. Et voilà, exactement. Oh. Tu viens de découvrir la raison. Bravo. Copyright Valérie, on sait pourquoi maintenant les vampires ne se voient pas dans les glaces.
Bien, bon, sur cette sortie. Alors, est-ce qu'on peut justement se nourrir sans nuire? Je crois que Jeanne vient de montrer que pas trop. Est-ce que c'est le cas? On est toujours dans la grande famille de Dracula, en passant par l'Esta avec un crochet. Quand on a un défaut de GPS par Édouard Cullen, est-ce que
de discernement.
Est-ce que dans la grande famille des vampires et des loups-garous, on peut survivre sans nuire? Est-ce qu'on peut être une partie de la population de la planète sans nuire à d'autres? Est-ce qu'on peut être des personnages bienveillants, bienfaisants?
Moi, dans mon histoire, oui,
oui.
Clairement.
Je voulais en venir.
Là, dans mon histoire, oui, le héros qui est un galou, dans ce qu'on appelle un galou, donc un loup-garou, quand son pouvoir se déclare, en quelque sorte, à l'adolescence, voilà, il a le choix. Soit il se tourne vers la part humaine de lui-même, donc il va pouvoir toujours se métamorphoser, et eux, c'est à volonté, et donc choisir de se tenir droit, voilà, être son pelage va virer au clair, va devenir plus blanc, c'est archétypal. Et par contre, s'il dévore la chair humaine, il va se tenir à quatre pattes, il va être tout le temps dévoré par une faim, une colère insatiable, qui ne connaîtra jamais de fin. Et donc là, il aura viré vers l'animalité, hein, c'est-à-dire il aura franchi une limite qu'il n'a pas à franchir normalement. Voilà.
C'est quoi l'avantage, finalement, du coup?
L'avantage?
Si tu manges du... Ouais. Tu viens de nous donner tous les inconvénients pour lesquels il ne faut pas le faire.
Voilà.
Mais il y a forcément une récompense qui fait que tu es tenté de le faire, ou c'est juste...
Tu veux dire tenté de le faire?
Si tu es tenté de passer du côté noir, il doit bien y avoir une...
C'est parce qu'en fait, c'est la tentation animale de se nourrir de l'autre. Quoi. C'est,
c'est la faim, en fait.
C'est la faim. Tu es tout le temps tiraillé par cette faim qui va te faire considérer l'autre, non plus comme un être humain ou comme une personne, mais comme une proie. Donc à partir de ce moment-là, voilà, tu franchis une limite.
Et est-ce que c'est pas aussi chez les galous, chez les galous noirs, le fait d'abandonner l'idée du contrôle, de se laisser complètement aller
à leur pulsion, en fait, c'est ça.
Sans limite et sans
pouvoir envisager que tu vas, pour ça, tu vas sacrifier la vie d'un autre, pour toi, pour ton propre plaisir, on va dire, tu vas, l'autre n'existe plus, n'est plus qu'un objet dont tu vas te servir.
Ouais. Du coup, ça me permet d'aller sur la prochaine question. Est-ce que l'appétit extrême, qu'il soit de sang, qu'il soit de sauvagerie ou de férocité, est-ce que l'appétit extrême qui rend donc potentiellement capable du pire, est-ce que c'est une sorte de super pouvoir ou est-ce que c'est une super malédiction? Est-ce que vos personnages, est-ce que vos monstres sont en position de super-héros ou en position de super-maudits? Maudit. Non.
Pour ma part, ils sont ni l'un ni l'autre. Ils sont comme toutes les créatures, je dirais, ayant une âme, des créatures surnaturelles ou à moitié humaines. Et donc, ils ont des choix à faire entre leurs besoins, entre leurs envies, entre l'éthique ou l'instinct. Et en fait, ils passent leur temps à faire des choix, parfois bons, parfois mauvais, que ce soit les loups, qui ne chasse que les animaux. Bon, je sais que Léo aime bien la marmotte, par exemple.
C'est sympa pour le chocolat.
Que ce soit les...
Mais qui va s'occuper des tablettes?
Très important. J'ai très bien dormi, donc
Au taquet. Que ce soit les vampires, qui ont besoin de sang, c'est un besoin physiologique... Comme disait Anne tout à l'heure, ils peuvent se nourrir que de sang, c'est la seule chose qui leur permet de survivre, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont se lâcher, tuer n'importe comment. Donc ils cherchent plutôt les donneurs volontaires.
Moi franchement, je me suis toujours dit, si j'étais un vampire, je serais énervée de pouvoir manger que du sang. Quoi. Ça doit être très très frustrant à un moment de toujours manger la même chose.
D'un autre côté, mon chien mange ses croquettes tous les jours, ça n'a pas l'air de le lâcher. Non.
C'est valable, c'est une vraie réponse.
J'ai une question existentielle qui va casser les yeux. Pourquoi le vampire peut-il se nourrir de boudin?
Ça doit perdre toute sa valeur nutritive.
Dans le micro. Et alors donc Jean-Luc vient de dire dans le micro.
Poser la question de savoir si les vampires pouvaient se nourrir de boudin, c'est pas très glam.
Et je propose que les véganes sortent de la salle dès maintenant, parce que ça va mal se passer. On va plonger.
En fait, là, tu joues à chercher le végan, c'est ça?
C'est de la discrimination, vous le savez. Voilà.
Des vendeurs de viande vous attendent à la sortie.
Non mais c'est vrai que c'est une vraie question, mais pas celle sur la mais sur le fait de effectivement à quel point est-ce un choix. Moi, une des parties de mon roman, c'est ça. C'est un médecin et c'est une biologiste de génie. Elle est recrutée en fait par une organisation en lui disant, voilà, le vampirisme c'est une maladie, donc il faut que vous cherchiez une façon d'éradiquer le gène pour en faire des humains normaux parce que pour eux c'est une souffrance et c'est affreux. Et tout, c'est de savoir est-ce que c'est une maladie ou est-ce que c'est leur identité, parce qu'ils sont, mine de rien, ils vivent en communauté à côté des humains, ils ont quand même une culture, leurs propres règles, leurs propres lois. Est-ce qu'on peut juste dire que c'est une déviance qu'il faut corriger pour les réintégrer et les remettre avec le reste de l'humanité, ou est-ce que c'est vraiment une créature à part qui a des droits et auxquels il faudrait, pour lesquels il faudrait trouver une solution, voilà.
Ça y est, on a trouvé le végan, il s'en va.
revenez, on ne mangera personne. est-ce que Jeanne, j'oublie toujours Jeanne.
Perso, quand j'ai créé mon univers, j'avais l'idée de quelqu'un qui allait du 15e siècle à la fin du monde, tranquillement 6000 ou 7000 ans plus tard, et je ne suis pas arrivée à me dire qu'il allait traverser ça sans boire de Bordeaux, sans manger de frites, et que du coup, ça ne le nourrissait pas fondamentalement dans sa nature vampirique, mais que oui, il faisait la fête avec les copains, et qu'en gros, c'était ça, c'était du plaisir, juste du plaisir.
Navarre, voilà. A des copains qui boivent, qui mangent, et ils mangent et ils boivent avec eux,
c'est ça.
Okay. Idem pour Logan.
Oui.
Et Dimitri qui apprécie un bon verre de vin de temps en temps, mais plutôt salade lui. Okay. Sang et salade.
Ramenez voilà, le vampire.
Pas végétarien, n'exagérons pas, mais voilà, il aime bien les légumes. Ce qui
pas
est
très exagéré, végétarien. Bon, on va faire une recette de cuisine pour les vampires qui n'aiment pas que le sang. Voilà, c'est une idée de livre. Alors, est-ce que je reviens à mon idée de super-pouvoir, puisque NM, vous avez aussi un livre qui s'appelle Super-héros, ça craint. c'est un peu ce qui m'a inspiré la question sur est-ce que le vampire est un super-héros. Est-ce que être super fort, être quasi immortel, voler, pouvoir se transfigurer, ouais, j'ai emprunté ça à Harry Potter, je ne me gêne pas, influencer les pensées, est-ce que tous ces pouvoirs, ça vaut la peine vraiment de vivre dans la fin chronique ou dans la monstruosité? Est-ce que ça vaut la peine de vivre dans cet isolement? Est-ce que c'est la récompense, l'espèce de bonbon à la fin, la cerise sur le gâteau qui implique quand même et d'ailleurs c'est la cerise sur le sundae, cette expression est fausse en français, c'est une cerise sur un sundae. Bon, c'est pas grave, c'est un détail. Est-ce que ça vaut la peine? Voilà. Est-ce que tous ces super pouvoirs valent la peine?
En fait, tu traites la question de la récompense par rapport à ça.
Qu'est-ce que je perds pour gagner quoi?
Voilà, c'est ça. Clairement, dans ma vision du monde, la récompense, c'est la survie. C'est pas les super pouvoirs qui vont avec, plus ou moins. Ça dépend des univers de chacun, etc. Pour moi, la récompense, effectivement, c'est la très très longue vie. J'adore vivre. Alors, je n'arrive pas à me résigner à l'idée que ça va se terminer dans 30 ans, 40 ans, si j'ai du bol. Hein, pour moi. Vous, c'est plus.
Ouais, ça passe super vite, hein. Moi je confirme. Voilà. Si vivez à fond, hein. Ça passe très 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 vite.
C'est ce que disait Pratchett, hein, dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé.
Voilà. Et ben ouais, tous les matins dans le miroir. C'est peut-être pour ça que c'est sympa d'être vampire, ne pas se voir.
Voilà, par exemple, ça. Mais c'est même pas le coup de la jeunesse, si tu veux, c'est le coup de ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, et du coup, les super pouvoirs arrivent dans mon univers avec la vieillesse, mais de toute façon, en même temps, ils risquent de devenir complètement gaga, les miens. Hein. Donc, voilà. Donc,
il y a dégénérescence.
C'est il y a un moment où ils commencent à se poser des questions métaphysiques sur la monstruosité, c'est-à-dire est-ce que je fais bien de tuer des gens rien que pour vivre moi? Et à ce moment-là, ça commence à déraper, et soit ils deviennent totalement monstrueux et ils se répondent « Oui, c'est vachement bien, en plus je vais y prendre mon pied. » Et il y a les autres qui continuent à faire... Ça c'est au bord de Cullen, là, le débile.
Moi, je n'ai pas dit ça.
Moi, je le dis, je l'ai même écrit, donc je peux assumer. Donc, il y a ceux qui essayent de trouver un moyen terme, et c'est le cas de Navarre, qui se dit « Bon, je vais m'occuper de mon nombril, je vais essayer de faire la fête le plus longtemps possible, je vais essayer de garder la tête froide le plus longtemps possible, et donc je vais éviter de me poser des questions à la con, je vais juste en profiter. Parce que c'est même l'immortalité, c'est court. »
C'est pas Highlander qui a le même avis sur la question. Est-ce que vos personnages, vous les voyez immortels et
Les loups-garous ne le sont pas. Okay. Ils vivent un petit peu plus longtemps que les humains, mais ils sont mortels. Les vampires...
Mortels par quoi ?
Mortels de vieillesse.
D'accord.
Comme tout le monde.
La balle en argent.
L'accident, ça peut arriver. Non, l'argent, ça ne leur fait pas grand-chose. Ils en font des colliers, éventuellement, mais c'est tout. Les vampires ont une vie beaucoup plus longue. Personne n'arrive à trop savoir s'ils sont immortels ou pas, parce qu'ils racontent beaucoup de bêtises pour se faire mousser. Mais en réalité, donc, les espèces entre elles se connaissent très peu et elles ont beaucoup de préjugés. Et
c'est étonnant. C'est pas chez l'humain qu'on verrait ça.
Voilà, tout à fait. Et donc,
ça n'arrive jamais.
Ça n'arrive jamais. Et donc, on ne sait pas exactement comment vivent les vampires, combien de temps, même si on découvre des pistes quand même intéressantes sur le futur tome 3. Voilà. À part ça, on parlait de récompense pour mes personnages. Les super pouvoirs ne sont pas une récompense puisque c'est pas quelque chose qu'ils vont gagner. C'est leur ils sont comme ils sont. Moi, j'appelle pas ça des super pouvoirs de se transformer en loup. Bon, c'est comme ça, c'est leur nature. Ils sont moitié.
Je sais pas, il y en a pas qui voudraient dans la salle pouvoir se transformer en loup. Si. Pas forcément d'être sensible à la lune, mais se transformer en loup.
Personne n'a envie de voler, d'être immortel, de voir dans la nuit, d'aller super vite, d'être super fort. Non, personne.
Voilà, bah alors, mes vampires ne volent pas, ils savent sauter très haut, mais ils ne volent pas. Ils ne se transforment pas en chauve-souris non plus.
C'est parce qu'ils n'ont pas de cape.
C'est pour ça. Ils ont rendu la cape de Batman, donc depuis, voilà, ils marchent comme tout le monde. Ou ils courent éventuellement. Et donc, il n'y a pas vraiment de super pouvoir. Le seul qui en a n'est ni vampire ni loup-garou, c'est Lucas, le personnage du tome 1. Bon, je ne vous dirai pas ce qu'il est, parce que pour ceux qui ne l'ont pas lu, je ne vais pas
déflorer
l'intrigue. Et il a des pouvoirs. Il les a un peu oubliés, ils reviennent au cours de ce tome. Et il se rend compte qu'il a des pouvoirs, et des pouvoirs très importants. Et sa question, ça va être, qu'est-ce que j'en fais de ces pouvoirs? Est-ce que ça ne va pas me transformer en monstre, comme ceux que je fuis, puisque ce récit, c'est le récit d'une fuite, essentiellement. Et il fait le choix, pour l'essentiel, de ne pas s'en servir. Parce qu'on est, comme tous les humains, on a des capacités, on a la possibilité de faire le bien ou de faire le mal, et on fait des choix.
Là, on est, j'y reviens, hein, mais on est vraiment quand même dans la même ligne sur le... Il y a plus une question de... je fais ce que j'ai à faire chez le vampire, et plus une question, enfin, c'est le sentiment que j'en ai, je peux me tromper, et plus une question de choix chez vos loups-garous.
Moi, totalement. Oui, c'est ce qu'on lui dit d'ailleurs.
Est-ce qu'il y a une perte d'âme chez le vampire, ou une perte de rapport sain à l'humanité, qui n'existe pas chez le loup-garou? Est-ce que le fait que le loup-garou soit un animal ou un humain en transformation permanente, est-ce que ça change sa vision de son rapport à l'humanité?
Mais disons que l'humanité des vampires, en ce qui concerne mon univers, elle est lointaine, puisqu'ils ont été transformés il y a déjà parfois quelques siècles. Donc ils ont des souvenirs de ce qu'ils étaient quand ils étaient humains, mais ils n'ont plus de contact rapproché. Il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus rien. Ils vivent donc entre eux, plus ou moins isolés. Et chez certains, effectivement, ça tourne à la folie furieuse. Dans le tome 2 d'ailleurs, qui a pété un boulon. Ce qui explique aussi que les vampires ne sont pas immortels, parce qu'ils peuvent s'entretuer ou se suicider.
Passer sous un camion.
Voilà, par exemple. Alors, c'est un peu difficile à tuer, mais c'est encore faisable.
Justement, est-ce que la mortalité du vampire moderne n'est pas liée à une espèce de glissement enfin, moi, je me souviens des classiques des films de vampires et des classiques des romans de vampires, où les vampires étaient des gros dormeurs. C'était un peu des Cthulhu miniatures. Enfin, ils passaient leur temps à dormir.
Mortalité du vampire moderne, ils ont toujours été mortels, les vampires.
Oui, mais quand on est moins...
Dracula, il meurt, alors.
Oui, mais il est moins... Il n'est pas très souvent... Ça y est, merci. Ne lisez pas Bram Stoker. Dracula meurt à la fin. Merci, Hélène. N'allez pas voir le Titanic. Le bateau coule.
Ah ben voilà.
Ne seras-tu non plus.
Non.
Non, mais alors, effectivement, ils sont. J'ai pas dit qu'ils étaient pas mortels, je disais qu'ils étaient moins confrontés à la mortalité récurrente, aux pieux. Enfin, Peter Cushing, le fameux chasseur de vampires, le Van Helsing, il va les chercher dans leur grotte, dans leur tombeau où ils dorment. Il y a quand même un. Oui.
Tu alors dors les... et paf.
Dans le micro. Est-ce que le fait d'être. Tout d'un coup plus vivant, tout d'un coup plus présent dans la réalité. Est-ce que les vampires de fantasy urbaine moderne ne sont pas plus mortels et ne sont pas plus en danger, simplement parce qu'ils sont plus réveillés que ceux que leur...
Ils sont plus souvent debout. C'est pas faux. Non, mais en fait, on les a beaucoup humanisés par rapport à une certaine littérature, effectivement. Mais c'est parce que ce n'était pas du tout la même optique. Si on voit le vampire de l'époque de Bram Stoker, c'est pas... c'est pas ton petit ami potentiel quand tu le vois. C'est un monstre qui vient de bouffer. Ça n'a rien à voir. Donc, effectivement, quand on regarde Nosferatu, t'as pas envie qu'il enlève son t-shirt pour la photo. Non, mais c'est vrai.
Pas de selfie avec Nosferatu. Vous pouvez la tweeter.
Après, y a,
mais y a il sera pas sur la photo, de toute façon.
C'est le grand glissement entre Nosferatu et Lesta. C'est qu'on arrive à une créature désirable, sexy.
Oui, c'est ça qui a enlevé
une beaucoup plus humaine et fragile.
Qui est
aussi.
Plus humaine. Après, il y a aussi notamment un livre qui s'appelle Un vampire ordinaire de Cizik Mac-Kisharmas, que je conseille à tout le monde, qui va carrément au bout de cette logique. En fait, son vampire est une créature qui hiberne pendant de très longues périodes. Et quand il se réveille, il ne se souvient de rien. En fait. Il part de zéro à chaque fois. Il refait sa vie pendant quelques temps, une période relativement courte, mais en fait, le secret de sa longévité, c'est ça. Il refait sa vie, et puis ensuite, il retourne dans sa grotte, il va se coucher, et il sait que la prochaine fois qu'il se réveillera, il se souviendra de rien. Toutes les personnes qu'il a pu croiser, il s'en souviendra pas, mais de toute façon, elles seront mortes. Et c'est très intéressant, je vous conseille vraiment cette lecture. Il y a aussi une approche spécifique de la physiologie du vampire et de comment arrive-t-il à mordre, qui est assez intéressante.
On en revient au croc du début.
C'était chez Ailleurs et Demain, celui-là, il me semble.
Il était blanc, je ne sais plus.
Il est sorti chez J'ai lu aussi.
Alors c'était chez Ailleurs et Demain, et puis après.
On redit le titre pour ceux qui n'ont pas eu le temps.
Ça s'appelle Un vampire ordinaire.
Alors c'est le seul roman de vampire qui a trouvé grâce aux yeux de Gérard Klein.
Ah ben bah, donc lisez-le.
Moi je dis ça, je dis rien.
Si on est dans le conseil, vous pouvez lire le premier de Nadia Coste. Et là pour le coup, sa vision du vampire est assez intéressante.
Alors j'ai pas encore lu, mais je voudrais revenir sur ce que tu disais et ce que disait ma collègue là. C'est ce qu'il y a dans l'évolution du vampire, c'est qu'il faut voir que nous aussi on a évolué entre temps. Au moment où Bram Stoker sort Dracula, il est en train, en fait, d'écrire la terreur de l'Angleterre face à l'invasion des étrangers. Et Dracula, en fait, Dracula ou les autres, c'est en fait une métaphore de l'invasion. Tout en étant tellement transgressif que Bram Stoker, même lui-même, je ne suis pas sûre qu'il s'en rend compte, qu'il est en train de créer une icône qui va être une icône sexuelle. Il y a une logique, c'est que lorsque, dans l'imaginaire colonial, je tiens bien le colonial là dans le raisonnement, dans l'imaginaire colonial, l'étranger, celui qu'on pourrait aller civiliser, puisque c'est nous qui avons la vraie civilisation, hein, faut être clair, hein, basiquement, celui-là, il a échoué. Enfin, nous, on est beaucoup moins sexués parce qu'on est des êtres civilisés, mais l'étranger, lui, il est fortement sexualisé.
Parce que c'est un sauvage.
Parce que c'est un sauvage, parce que c'est une bête, d'accord. On peut aller très très loin, et là on arrive à ces images où vous avez King Kong qui enlève la blonde, en gros.
Hein, quel mauvais goût.
J'ai jamais compris. Pourquoi une blonde peroxydée alors qu'il y a des vraies brunes à côté? Mais bon. pas la dernière, là, celle qui te déshabille avec ses trucs. Oui.
Elle était en noir et blanc, surtout.
En noir et blanc, c'était pas net. Mais alors, tu as sûrement raison. Moi, je pensais au film, le film récent, L'Autre. D'accord. Voilà. Parce que j'ai aucun souvenir du vieux que j'ai dû voir à 11 ans. Donc, voilà. Par contre, j'avais été très choquée par la robe en satin blanc et les cheveux blonds de L'Autre. Voilà. Tu as sûrement raison sur la première. Alors là. Bon, alors, je finis mon raisonnement, du coup. Du coup, quand Bram Stoker fait ça, il est dans un imaginaire colonial, terrorisé par l'arrivée de ces horribles bronzés qu'on a un peu civilisés et qui pourraient réclamer des trucs. Depuis la face du monde en Angleterre a un peu changé. Hein. Leur empire s'est un tout petit peu effondré, il faut quand même le dire.
Ils sont pas au courant. Hein.
Mais ils le savent. Ils font semblant de pas le savoir, mais. Mais, et puis, il y a d'autres problématiques qui se sont mises en jeu. Et les auteurs se sont aperçus que, quand même, ce personnage-là du vampire transgressait absolument tout. Et notamment tout ce qui est les barrières de genre, les barrières
de sexualité. Mais avant Bram Stoker, c'était Sheridan Le Fanu qui avait bien écrit Carmilla, qui était déjà une histoire de vampire, il était quand même très sexué, justement.
Il était carrément lesbien, en plus.
Voilà, donc déjà, même avant lui, déjà, le vampire avait quand même une connotation fortement sexuelle.
Tout à fait. Non, mais là, c'est parce que Freud n'était pas passé par là. Je ne leur avais pas expliqué le coup du symbole phallique.
Mes auteurs, ils partent tout le temps en même temps.
Pardon, excuse-moi. Non.
Alors, donc, on finit les raisonnements de Jeanne.
J'avais terminé. En gros, ce que je disais, c'est que cette évolution allait avec le désir des auteurs de se confronter avec des vrais problèmes. Ok, on l'a refait. Le lapsus était pas mal. C'est clair pour moi, la problématique colonialiste n'est pas une vraie problématique. C'est juste une saloperie. Voilà. Mais tout ce qui est de l'ordre des problématiques de genre, de limites, de liberté individuelle, etc., c'est ce que, au fil des années, depuis le début du XXe siècle, se sont acharnés à faire les auteurs. Et c'est logique, là, que il soit de plus en plus sexué, puisqu'on est de plus en plus dans la reconnaissance de la liberté de chacun de ce point de vue-là.
Ah, voilà. J'allais vous, vous, vous demander, est-ce que principalement, Jean-Luc, vous voulez...
Non, c'était dans le conseil sur les loups-garous, je ne sais pas si vous aviez lu « Plus noir que vous ne pensez » de Jack Williamson, qui est extraordinaire sur les loups-garous, où il imagine que dans la préhistoire, dans une période glaciaire, une tribu d'hommes, il appelait ça des hommes sorciers, en fait, ils s'endorment, et en fait, leur esprit peut prendre possession en fait, de l'air, des molécules d'air, et en fait, faire un corps à partir de l'air, un corps invisible, et eux, donc c'est un corps de loup, un corps de prédateur, ils vont chasser comme ça, en étant plongés dans le sommeil, donc des prédateurs invisibles, et donc ils vont dominer petit à petit les hommes, et donc découle de cette époque où ces hommes sorciers dirigeaient l'humanité, où l'humanité est comme du bétail pour eux, en fait toutes les légendes après de loups-garous, etc., de vampires, et donc ils se sont perdus, mais ils existent encore à travers l'humanité, leur sang est dilué, mais en fait l'histoire c'est qu'au début on va rencontrer, on va s'en rendre compte, il y en a, ils essaient de par croisement de retrouver justement la race pure, de refaire leur messie. Donc il est vraiment extraordinaire ce livre, Plus noir que vous ne pensez, de Jack Williamson, très très bon.
Avec ça doit être chez Ailleurs et Demain aussi.
Tu me fais peur. Non,
il est assez terrifiant comme livre, il est vraiment, justement, il est très très bien.
Et alors, donc, ma question suivante, c'est est-ce que potentiellement et de façon très intrinsèque, vos personnages sont des personnages épris de liberté? Est-ce que être un monstre ou être autre, être différent, c'est cultiver principalement son individualité et sa liberté?
Oui, moi je vois mon personnage, mon héros, donc Louis, le galou justement. En fait, tout devient très simple. Quand il se laisse aller à son animalité, tout devient simple. Il n'y a plus tout ce qui est les rapports tortueux entre les humains, etc., les complications les uns les autres. Et voilà, il y a manger ou être mangé. Voilà, assouvir ses instincts, voilà, c'est ça un petit peu aussi qui fait le...
Il est quand même confronté à des choix, des choix moraux.
À des choix moraux, justement, mais voilà, être humain, ça signifie justement que tu as des choix, que la vie devient compliquée, que ça t'oblige à réfléchir, et justement à regarder les autres, à s'ouvrir à l'autre, à considérer l'autre comme une vraie personne, et donc du coup, à s'ouvrir à lui, à s'accepter soi-même aussi, à accepter sa part d'ombre, sa part d'animalité, ce qui est un peu le problème de chacun d'entre nous, c'est que... Quand on est gamin, c'est quand même, quand on est plus jeune, on a quand même, et même des fois même plus vieux, on a du mal à accepter la part d'ombre qui est en nous, à la faire nôtre, et si on n'y parvient pas, on a du mal à sourire aux autres qui sont autour, si on n'arrive déjà pas à s'accepter soi-même. Voilà, donc c'est un peu toute la problématique de mon héros.
Est-ce que votre héroïne médecin, qui choisit d'être médecin légiste pour éviter d'avoir des patients qui meurent, parce que j'ai trouvé ça intéressant comme choix professionnel, est-ce qu'elle justement son parcours vers cette découverte d'un univers qu'elle ne connaît pas, est-ce que ça lui permet de mieux se connaître, de mieux se découvrir à travers des êtres très différents d'elle?
Déjà, mon héroïne est quelqu'un qui se sent un peu en marge par rapport à la société. C'est une sorte de génie.
Médecin légiste, c'est en marge.
Et en fait, c'est ça, elle a reçu une immense pression parce qu'elle faisait de la biologie. Et c'est la pression de sauver des gens, de trouver des solutions à des problèmes. Et ses parents qui s'attendent qu'il la présente, genre ma fille va guérir le cancer. voilà. Et à un moment, elle se dit, c'est plus possible puisque c'est comme ça, elle lâche tout. Et effectivement, elle se met à s'occuper de cadavres en se disant, comme ça, au moins, je peux pas me planter, ils sont déjà morts. Mais c'est vrai que du coup elle se retrouve là-dedans et pour elle oui c'est être plus libre d'un autre côté, elle est moins qu'elle pourrait être et ça déçoit tout le monde, ça déçoit ses parents, elle veut plus leur parler parce qu'elles sont le jugement et d'un autre côté oui c'est terrible d'avoir je vais citer Spider-Man, désolé mais vous savez, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, c'est
ma phrase préférée.
Non mais c'est très juste. C'est, si vous pouvez beaucoup, quelque part, est-ce que vous ne devez pas beaucoup? Et du coup, finalement, oui, est-ce qu'être un super humain ou avoir des pouvoirs et pas s'en servir, est-ce que du coup, ce n'est pas une faute morale, du coup, de les utiliser même sans les utiliser pour le mal? Mais du coup, peut-être qu'ils seraient quand même vachement plus peinards s'ils n'avaient rien et s'ils étaient juste normaux. Et c'est la problématique un peu de tous mes personnages. Il y en a qui veulent garder leur pouvoir en disant, oui, mais on est des surhumains, on peut plus. Mais d'un autre côté, il y en a d'autres qui voudraient juste se
chill out
la masse et qu'on arrête de les gonfler.
Vivre tranquille et regarder Netflix. Enfin,
voilà.
C'est la parabole des talents, ça. L'histoire, vous savez, le père qui part en voyage et il a 3 fils, il leur donne 10 talents. C'était la monnaie d'or à l'époque. Et c'est énorme à l'époque. Et puis il part pour 1 an. Et le premier fils va vite enterrer ses 10 talents au fond du jardin. Le deuxième fils va tout dépenser avec des putes et les copains. Et le troisième fils, lui, il va donner le fric à un marchand en lui disant, voilà, j'investis dans ta boîte et puis tu me donnes les bénéfices. Et au retour, le père en engueule un. Lequel ? celui qui a enterré au fond du jardin, celui qui est allé faire ça avec les putes et jouer là, il est parfait. Il a usé du don du Père. Et en gros, le message de la Bible là, et Dieu sait que je ne suis pas croyante, mais celui-là, je l'entends bien, c'est vous avez le droit de gâcher vos talents, vous avez le droit de les faire fructifier, mais vous n'avez pas le droit d'ignorer votre talent. Vous n'avez pas le droit de cracher sur le don du Père. Voilà. Et c'est ça, la responsabilité.
Pardon, du coup, le prof, moi, envie d'être loup-garou et moi, envie d'être vampire. Il y a de la pression, quand même. Est-ce qu'ils ont des talents à ne pas gâcher, vos personnages ? Ou est-ce que, justement, c'est déjà tellement dur de vivre avec
C'est déjà assez difficile de vivre avec, mais oui, ils ont quelques talents, mais surtout le personnage de Lucas, qui est donc le héros du tome 1. Et ce livre, c'est un peu, justement, sa quête initiatique, puisque c'est un personnage qui a plus ou moins oublié son passé, oublié sa nature, qui méconnaît ses pouvoirs, et qui va petit à petit se découvrir dans des conditions pas faciles du tout, et qui va devoir assumer ce qu'il est, et comme on le disait tout à l'heure, faire des choix et choisir la vie qu'il a envie de mener. Mais c'est quelqu'un qui reste très libre, puisque dans l'histoire, il rencontre une meute de loups-garous, mais il ne s'attache pas vraiment à la meute, il s'attache à certaines personnes, il tombe amoureux, mais il ne s'intègre pas totalement, c'est quelqu'un qui reste très libre. Et qu'on retrouve au fil des tomes, mais toujours un peu en extérieur. Alors que la problématique pour mes loups-garous, notamment pour le personnage du tome 2, qui est Léo, est très différente. Son problème à lui, c'est où s'arrête ma liberté individuelle, ma propre quête du bonheur, et où commencent mes obligations envers la meute, envers les loups qui comptent sur moi. Et en fait, tout le tome, c'est... Voilà, comment devenir, enfin, faire des choix d'adulte quand on est un jeune père, quand on tombe amoureux et qu'on découvre sa propre sexualité un petit peu tardivement, qu'on voudrait bien vous faire prendre le pouvoir et qu'on n'est pas sûr de vouloir l'accepter. Voilà, c'est tous ces choix-là qui sont faits. Et là, effectivement, puisqu'on parlait tout à l'heure de lien, de liberté ou de lien, pour Léo, l'un ne va pas sans l'autre. Parce que c'est un loup-garou et qu'un loup est... ne peut vivre qu'en meute.
C'est la grande différence avec les vampires.
C'est la grande enfin, encore que les vampires dans mon roman vivent en nid. Mais ils n'ont pas ce lien, je dirais, charnel, physique et métaphysique des membres de la meute.
Vos personnages sont tous des alphas ou pas forcément ?
Pas forcément. Pas forcément.
Est-ce que chez le vampire, on retrouve aussi ce principe de l'alpha ? Est-ce que Louis est un loup-garou alpha ?
Oui, on pourrait dire, lui, oui. Enfin, et Malmort aussi, donc le méchant de l'histoire, qui en est un, qui dirige sa meute, tout à fait.
C'est presque un oméga tellement il est méchant. Hein.
Ah, tellement il est méchant.
C'est pas gentil, son Malmort.
Mais l'oméga n'est pas méchant.
Ouais, moi, je suis manichéenne, hein. Bien, mal, noir, blanc, sinon...
Bambi, Médusa.
C'est ça.
Alors, donc, lui est un loup-garou
alpha.
Lui est un alpha.
Enfin, il va le devenir petit à petit. Il va petit à petit apprendre à dompter sa bête intérieure, apprendre à en faire, à se développer lui-même, à se découvrir lui-même, à se découvrir dans ses dons, à accepter cette part animale. Parce que toute la problématique du personnage est là. Dans tout le livre, c'est-à-dire d'en découvrir toutes les facettes. Hein, c'est un peu lui son problème. Et après ça, prendre le contrôle de soi-même, prendre le contrôle après ça, pas forcément des autres, parce que c'est pas contrôler les autres, mais c'est exactement tout à l'heure ce que je voulais dire, c'est de découvrir aussi que son pouvoir implique effectivement de grandes responsabilités. Parce qu'on lui met tout de suite sur le dos, on lui dit, voilà, c'est une des premières choses que lui dit une des personnes qu'il rencontre, il lui dit, voilà, tu as un grand pouvoir, par contre, maintenant, qu'est-ce que tu veux en faire ? Voilà, soit tu vas rajouter, parce que bon, ça se passe assez mal dans le monde où il se trouve, donc soit tu vas rajouter encore de la misère à ce monde-là qui n'en a déjà pas besoin, parce qu'il y en a d'autres qui sont en train de s'en charger. On parlait de Malmort, lui, Malmort, justement, est un galou qui a très très mal tourné parce qu'il a passé son temps, une grande partie de sa vie, à nier ou à renier totalement sa nature animale. C'est comme si à un moment quelqu'un lui dit, mais en fait, il a enfermé sa bête au fond de lui, il voulait pas du tout, il voulait montrer qu'il était le meilleur de tous, hein, au contraire, il était parfait. Tellement parfait qu'un jour, quand par exemple il a cru que sa femme était morte qu'on lui a dit que sa femme était morte, avait été tuée par un tel, une telle personne, mais il s'est complètement effondré en lui-même. Au contraire, il est devenu une espèce de puits de noirceur. Il a laissé toute la bête et sorti, a récupéré finalement en un seul coup, en une seule nuit, toutes les années où elle avait été enfermée. Il s'est déchaîné totalement. Il a été attaqué à un château, un pauvre type qui n'était pas pour grand-chose d'ailleurs, en fait. Et il va ravager totalement la forteresse et tous ceux qui s'y trouvent. Et donc, il va plonger, complètement basculer. Et quand il se rend compte que sa femme, finalement, est vivante, qu'il se retrouve confronté au regard de sa femme et de son fils.
Oups, oui.
Oups. Alors qu'il vient de massacrer quasiment devant leurs yeux la moitié de... Voilà. Et donc, incapable de se regarder lui-même dans ses yeux-là, il fuit et il continue. Il va continuer encore à se plonger encore plus dans la noirceur, quoi, quelque part.
Oui, un minimum de self-control, ça aide quand même un peu.
Ouais, des fois. Alors, mais surtout ça, alors ça c'est très anglais, parce que les Anglais sont énormément dans le contrôle. Là, je crois que la pire terreur d'un Anglais, c'est de faire une fausse note dans une réception, machin comme ça, de se conduire comme il ne faut pas.
Ou de faire une blague à laquelle personne ne rit.
Voilà, c'est ça. Et donc devenir
oui, docteur. Mais ça, c'est grave.
Et ça, c'est grave. Voilà, donc ça, c'est assez. C'est très symptomatique aussi, enfin, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, voilà. De l'Angleterre, quoi, aussi, de cette époque-là.
Bien. Alors, est-ce que NM, vous voulez nous donner une petite conclusion sur votre vision de ce qu'est un vampire, de ce qu'est un vampire qui a ou pas les crocs ?
C'est une lourde responsabilité.
Oui. Mais je vais la confier à chacun. Vous ne serez pas la seule.
C'est sûr que de ce point de vue-là, le vampire continue visiblement de fasciner les foules. Et c'est vrai que ça se pose de ce point de vue-là aussi. Bah, qu'est-ce qui différencie le vampire de l'humain ? C'est, en premier lieu, on pense aux crocs, même si de fait, ce n'est pas toujours des crocs. Parce que justement, Suzy McKee-Sharmas, dont on parlait tout à l'heure, elle, c'est un aiguillon sous la langue. Mais c'est vachement plus malin comme truc, parce que c'est vrai que les crocs, c'est pas pratique. Bah, c'est mon truc, vampire, ça craint grave, il bave du coup quand il dort et tout, parce qu'il peut pas fermer. Non,
ça peut rajouter un dédément un peu intéressant.
Oui, non, bah, c'est ça, tu dors dans ton cercueil, t'as des échardes, tu prends feu au soleil. Non, c'est nul. Mais. Non, ça, et on peut voir ça de ce côté-là aussi. Oui, aussi. Oui, c'est un truc, je pense que je ne sais pas où on va avec ça, en fait. On a exploré énormément d'aspects du loup-garou qui effectivement et du vampire qui ont tous les deux beaucoup évolué depuis les légendes de départ, ou depuis le Moyen-Âge, où on pensait que ça existait, où on allait vraiment ouvrir les cercueils. Il y a une thèse de doctorat qui a été publiée qui s'appelle Le Vampire, qui est toute une partie historique où elle met des comptes rendus, où on voit de pauvres prêtres qui viennent dans des villages, qui vont déterrer le cercueil, ouvrir et faire oui, en effet, il avait bien bonne mine pour un cadavre, donc on l'a retué, on ne sait jamais. Jamais trop prudent.
Deux morts valent mieux qu'une.
Oui. Mais après, au point où on en est, je ne sais pas trop si c'est la fin du vampire, en tout cas, si on est arrivé dans un mur ou pas.
La fin F.I.N.
La fin F.I.N., voilà. Ou est-ce qu'on peut encore le faire évoluer d'une autre façon, ou le faire revenir à un stade antérieur, je ne sais pas. Est-ce que Stéphanie Meyer a tué le vampire à jamais ou pas ? Peut-être.
Tu me rappelles une histoire qui m'avait fait bien rire. C'est Georges Takei, l'acteur qui joue Sulu dans Star Trek. C'est la première série, il y a 3000 ans.
La seule.
L'unique. Qui, à un moment, un peu fatigué des batailles entre les fans de Star Trek et les fans de Star Wars, les avait appelés à s'unir parce qu'au fond, ils avaient le même but, sauver la galaxie, instaurer la paix, l'amour et la justice. Et que donc, il fallait éradiquer les fans de Twilight qui ne voulaient pas, eux, instaurer la paix, l'amour et la justice dans la galaxie. C'était évident. Voilà.
Les rebelles et les trekkies contre les culaines.
Ça doit dater de 2011 ou de 2012, ce délire. C'était pas mal.
Bon, achevez-vous, est-ce que vos loups-garous ont encore beaucoup d'avenir ? Est-ce qu'ils sont un peu l'avenir de l'humanité, ou est-ce qu'ils sont des presque humains comme les autres qui s'en sortent aussi bien qu'ils peuvent ?
L'avenir de l'humanité, non, je ne pense pas. J'espère qu'ils ont un bel avenir devant eux. Voilà. Et ma série aussi. Mais non, je pense qu'il y a toujours eu des évolutions en littérature sur les... quel que soit le genre et quelles que soient les créatures surnaturelles. Et je pense que les auteurs de demain auront à inventer ou réinventer le mythe du vampire et celui du loup-garou, comme ça a été fait avec l'urban fantasy depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Effectivement, il va falloir passer l'étape Twilight, qui a beaucoup imprégné les jeunes générations. Puisque quand on dit tu connais un vampire, et effectivement la réponse c'est Edouard, quoi.
Non.
Et c'était tétanisant pour quelqu'un comme moi, effectivement. Pour qui c'était Nosferatu, Dracula ou Lesta. Ouais.
Moi un vampire, c'est Brad Pitt, point.
J'ai une autre question existentielle.
Il faisait un très joli Louis, mais bon.
J'ai une autre question existentielle. Est-ce qu'il y a un auteur, parce que peut-être qu'il y en a un, je ne sais pas, qui a eu l'idée de vampires qui élèveraient par exemple des humains et leur feraient par exemple manger du curry pour que le sang ait goût à curry, tu vois. Eh oui.
Non, mais là, tu restes dans ton idée
de cuisine. Non,
parce que quand on disait, le vampire, il en a marre de tout le temps boire du sang. Ben, pourquoi il ne pourrait pas donner du goût, tu vois? Mais dans ce cas-là, comment
avec
il
des
fait...
asperges, des poireaux. Les asperges, c'est possible.
En tout cas, le sang, c'est possible, puisqu'il semble, je parlais de curry, il disait que, par exemple, le curry passait dans le placenta quand la mère mangeait du curry.
Mais il est clair que les gens qui mangent très épicé ont eu...
Donc, est-ce que les vampires... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu cette idée-là?
Ça expliquerait, du coup, les conneries de l'air. Assez doux. Ah oui. Cette histoire.
N'en parlons pas.
Est-ce que Léa Seydoux est une vampire, finalement?
Elle est très blanche. Elle est très, très blanche. On arrive à la fin de cette table ronde. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir des vampires, des loups-garous, avec ou sans crocs. Je ne sais pas si l'année prochaine, on se réunira pour un quand le héros a des écailles pour parler des sirènes.
Cornes pour parler des licornes. Je peux pas, j'ai licorne.
On va proposer ça au festival. En tout cas, merci à vous, merci à nos auteurs, et puis vous allez pouvoir les retrouver en dédicace dès maintenant. Merci.
Après la clope.